De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.
Alexei Pajitnov, c'est pas facile à dire, mais vous le verrez tout à l'heure. Nous avons maintenant pour le club de la presse IT Olivier Frigara qui est là. Salut Olivier.
Bonjour François.
Olivier Frigara, le fondateur de On Refait le Mac, de la F1 aussi qui cartonne. Merci d'être là.
Plaisir, je demande l'Asie climatique à BFM, voilà, donc je resterai là demain.
C'est vrai que la climatisation marche très très bien. D'ailleurs, tous les invités qui veulent venir dans nos plateaux, n'hésitez pas, c'est bien climatisé.
On est bien ici.
Damien Licata est là avec nous aussi. Salut Damien.
Bonjour. Oui, c'est un très bon argument quand même.
Ah, ouais, c'est pas mal en ce moment. Je sais pas si ça va durer. Espérons que ça dure pas longtemps.
Parce qu'ils vont nous mettre dehors au bout de 2-3 jours quand même.
Damien qui est journaliste au Parisien. Bon, vous avez la clim aussi quand même là-bas.
Oui. Tout à fait.
Bon, très bien. Tetris quand même, c'est dingue, non, en deuxième partie?
Ouais.
C'est fou quand même, on a tous joué à ce jeu-là.
Ça évoque de beaux souvenirs.
C'est sans doute le jeu le plus mythique du jeu vidéo. Le
jeu de la Game Boy.
C'est incroyable.
Il y a on va dire que j'amène tout Apple, mais...
Vous allez voir, donc cette interview qu'on va vous diffuser dans une petite demi-heure dans De quoi je me mêle, Alexei est d'une humilité incroyable. Incroyable.
Enfin, vous verrez ça. Excellent film, un long métrage sur Apple TV qui raconte l'histoire de Tetris. Magnifique.
Ouais.
Magnifique.
Je lui posais la question d'ailleurs tout à l'heure. Est-ce que ce film, a été romancé? Enfin, est-ce que l'histoire de Tetris et de son parcours a été romancé? Il nous racontera ça tout à l'heure. Mais pour donc cette première partie, on va commenter l'actu tech de cette semaine et on va parler lunettes connectées parce que. Un nouvel arrivant pointe le bout de son nez. Alors vous le savez, Meta cartonne avec ses Ray-Ban Meta. Samsung et Google se sont associés pour lancer des lunettes qui arriveront, je crois, à la fin de l'année, qu'on attend avec impatience. Apple aurait dans ses cartons aussi des lunettes connectées, mais c'est Snap qui vient d'annoncer ses lunettes. Alors elles sont prêtes là, je crois qu'elles sont quasi prêtes
elles vont sortir bientôt, bien sûr, elles arrivent d'abord aux États-Unis, ensuite elles arriveront en Europe à la rentrée.
Oui.
Donc ce sont les specs,
les specs
qu'on a vu beaucoup circuler les prototypes, les premières versions. C'est assez logique finalement, Snap a une expertise en réalité augmentée, ils l'ont appliqué à un produit et ça donne ces lunettes assez classique, mais dessus, on va avoir des petits verres et on va reproduire un écran de 24 pouces. Donc voilà, c'est un écran assez confort. Et si on veut tirer un petit peu plus, on peut arriver jusqu'à 105 pouces pour avoir un écran de type télé. Mm-hmm. Certainement, on perdra en qualité. Donc c'est quand même des lunettes assez révolutionnaires dans ce style-là parce qu'elles fonctionnent en totale autonomie. Elles sont pas reliées à un smartphone, comme ça peut être le cas pour les Meta.
Ouais. Elles sont un peu plus...
Elles sont un peu plus volumineuses, logiquement,
massives,
parce qu'il faut quand même caler les verres pour pouvoir projeter dessus des images. Le prix aussi, il est volumineux. On est sur 2 300 €.
Ah oui.
Voilà, il faut parfois payer les premières technologies.
Et les premières prix d'un Apple Vision Pro.
Ça reste de l'informatique spatiale. Ça reste un peu cher, mais ce sont les premiers modèles. Et c'est vrai qu'on n'attendait pas forcément Snap dans cette catégorie-là et de lancer surtout la popularisation de ce genre de produit. Parce qu'on se dit à chaque fois, les lunettes connectées sont l'avenir de la tech, elles vont dépasser à un moment les smartphones. Peut-être que ça commencera par un modèle comme ça, peut-être que ça commencera aussi par un modèle peut-être un peu plus simple. On sait aussi qu'il y a les lunettes de Rokid, les Chinois, qui arrivent aussi en Europe et en France maintenant. Elles sont aussi assez chères, on va être dans les 1 700 €, donc avec un usage qui est différent. Les Rokid, c'est juste de la projection en fait de texte, un peu à la Matrix, c'est des caractères en vert et on peut leur demander... de faire appel à un petit assistant IA. Donc c'est un peu ça ressemble au Meta Ray-Ban, mais avec du texte inclus sur les verres. Donc on va savoir très rapidement qui va gagner la bataille des lunettes connectées, mais en tout cas il y a vraiment de l'activité autour de l'émulation autour de ces lunettes.
Alors c'est rigolo parce que Snap n'en est pas sa première paire de lunettes. Je sais pas si vous vous souvenez, moi je me souviens d'un CES de Las Vegas où j'avais vu dans une espèce de grande allée, alors même pas dans le salon, c'était dans les rues de Las Vegas, une espèce de pop-up store où Snap présentait ses premières lunettes qui s'appelaient les Spectacles.
Spectacles.
Je sais pas si vous vous souvenez.
Basico-basique.
Il y avait des caméras, je crois. Je sais même pas s'il y avait des haut-parleurs à l'époque dessus.
Non, à l'époque d'ailleurs.
Et le concept du fondateur de Snap, c'était de dire, Snap c'est de la vidéo, on fait des micro-vidéos, etc. Mais on va pouvoir les faire avec les lunettes. Ça n'a pas véritablement marché. C'est arrivé un peu trop tôt.
Et oui.
Ces lunettes sortent un peu dans un contexte compliqué parce que Snapchat n'est plus le réseau social qui gagne énormément d'argent.
Ils ont perdu de leur superbe, mais ils ont quand même réussi à maintenir une fanbase assez conséquente. Hein. Il y a quand même des gens qui étaient des utilisateurs adolescents, qui sont entrés dans l'âge adulte.
Ouais, qui restent.
Donc il y a un budget différent aussi, et qui sont peut-être capables d'acheter ça par fidélité à Snap.
Mais est-ce qu'ils ont les épaules assez larges pour lancer cette gamme de nouveaux produits? Parce que là, on est sur de nouvelles lunettes qui sont totalement autonomes. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est
que vous n'avez même pas besoin d'un smartphone. Qui sont capables de
faire tourner... Il y a un OS dedans qui tourne.
L'OS, exactement, de faire tourner des petites applications de réalité augmentée qui sont dédiées à ces lunettes-là, plus de faire tourner la projection et qui est quand même gourmande en énergie. Donc, ces lunettes avec une autonomie limitée... on ne sait pas exactement quel public ils visent.
Sur des 4 heures, hein, c'est ça l'autonomie.
Oui, on est sur des 4 heures, donc c'est pas forcément
quand même pas
pour
mal
regarder.
Par rapport au Vision Pro, encore une fois, qui lui est mis à 2 heures.
Hein. Et qui est un petit peu plus chaud aussi, si on en revient à la clim. C'est vrai qu'ils ont un marché devant eux, peut-être, à investir. Et est-ce qu'en étant les premiers, ils vont pouvoir le préempter? On verra.
C'est intéressant parce qu'effectivement, on se demande tous et toutes ce que va faire Apple autour de ces lunettes connectées. Est-ce que le modèle, ça va être plus le modèle d'un Meta aujourd'hui qui a cartonné hein, avec les Ray-Ban Meta, il y a eu des nouveautés encore cette semaine, et qui aujourd'hui devient la norme du marché. Mais c'est une vision beaucoup moins, sans jeu de mots, beaucoup moins ambitieuse que celle de Snap aujourd'hui, avec les specs, puisque c'est il n'y a pas d'écran, puisque c'est juste... Alors, il y a une IA, et ça aussi, Snap, on les attend, est-ce que leur agent sera aussi efficace hein, c'est pas leur métier non plus. Hein, donc,
il y a plein de questions, hein, l'autonomie, est-ce que... C'est des grosses lunettes. Est-ce qu'on pourra les qui va porter ça en fait
ça,
on a l'impression que c'est encore
d'usage, quoi.
C'est pas un truc qui est sec si tu veux tu vois.
Je m'attendais à pire si tu veux. Quand on écoute aujourd'hui et qu'on essaie de comprendre ce que pourrait faire Apple aujourd'hui, qu'on nous dit mais ne croyez pas qu'Apple va sortir un Vision Pro ultra léger comme vous avez sur les lunettes, c'est pas possible. Quand on voit ce qu'on fait Snap, on se dit c'est pas possible, mais un peu quand même. Donc à terme, ça pourrait être intéressant d'ici quelques années de voir en matière de miniaturisation ce qu'on arrivera à faire. Surtout que, tu le sais, Apple maîtrise l'ensemble de la chaîne, y compris le silicone. Donc, elle peut vraiment développer des composants.
Et on a vu aussi, il y avait une start-up néerlandaise qui était capable, qui faisait une démonstration de force, qui attirait tout le monde, qui était capable de projeter une image extrêmement fidèle dans les petits verres et qui était capable de produire ça pour des modèles industrialisés. Donc, finalement, peut-être qu'Apple ne va pas le faire directement, mais il serait peut-être capable de racheter une boîte comme ça pour gagner peut-être un ou deux cycles d'avance et se retrouver avec un produit qui arrivera sur le marché quand il sera vraiment à maturité, c'est-à-dire peut-être courant 2027.
Bon, en tout cas, on souhaite bonne chance à Snap. Franchement, moi, j'y crois pas trop parce que...
On va essayer, écoute.
Ça va coûter énormément d'argent en marketing. Est-ce qu'ils ont la capacité financière de se lancer aussi dans des magasins,
et le réseau
de passer des accords commerciaux, de trouver un réseau de distribution?
Parce que par exemple les Meta Ray-Ban, ils ont tout de suite fait un réseau d'opticiens ou deux, et puis après ils ont réussi à commercialiser les choses.
Après j'ai un ami qui est
associé avec Ray-Ban surtout. Là ils vont tout seuls.
Oui c'est vrai. Mais j'ai un copain qui est ophtalmo et qui m'expliquait que ces lunettes étaient très intéressantes justement pour toutes les professions médicales. Elles permettraient par exemple d'avoir des informations en surimpression, elles sont plus légères et plus confortables que le Vision Pro, par exemple. Bien. Donc, il y a peut-être aussi des débouchés professionnels.
Et cet ophtalmo, il a évalué un peu l'impact que ça pourrait avoir sur la rétine, parce qu'on n'a pas vraiment de recul. Si plus on rapproche l'écran, peut-être qu'on va pouvoir...
Il a lu les specs, il a dit c'est intéressant. C'est intéressant, mais après, il faut voir effectivement si, à l'usage, elles sont confortables et efficaces. Mais c'est bon, on va voir un peu ce qui se passe.
En tout cas, aujourd'hui, il est certain que les usages qui se développent autour de ces solutions de réalité mixte, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, autour du Vision Pro, c'est que du B2B, il y a beaucoup d'applications médicales. On sait que le casque, il y a des solutions françaises avec Clear Surgery qui permettent aujourd'hui à des chirurgiens, de travailler à distance, mais de plus avoir sa batterie d'écran comme on a ici dans le studio, et de pouvoir travailler avec vraiment des écrans intégrés sans toucher des zones tactiles qui pourraient être infectées, etc. Donc il y a un vrai marché B2B autour de ça. Mais encore une fois, tu l'as dit, il y a beaucoup d'incertitudes. Est-ce qu'ils ont les épaules pour le faire? Moi, je suis quand même agréablement surpris. C'est vrai que c'est massif, mais je m'attendais à pire.
Ouais, à voir. Espérons qu'on puisse les tester rapidement et on vous fera un retour précis. Moi, j'avais pu les tester rapidement il y a quelques mois de cela, mais c'était pas terminé. Tu vois, c'était encore du proto et de la bêta. C'était assez intéressant, mais elles étaient lourdes, je trouve. Et tu ne peux pas te balader dans la rue avec ces lunettes-là, c'est pas possible. L'actu, c'est Meta aussi, qui, vous avez vu, continue son partenariat avec EssilorLuxottica, mais a décidé de sortir des lunettes de son côté, moins cher,
oui,
avec la même technologie qu'il y a dans les Ray-Ban Meta.
L'avantage, c'est quand on enlève la licence Ray-Ban ou la licence Oakley, ben, on peut faire des produits un
oui,
peu moins chers,
parce qu'on
n'a pas
besoin
de la payer.
Ben
donc,
oui.
On se retrouve avec les Metaglass qui commencent à partir de 309€. Donc voilà, ils enlèvent 50 à 60€ sur le prix de base des Wayfarer ou d'autres modèles qui sont collés à la marque Ray-Ban ou Oakley. Donc là, on est sur un produit plus abordable, avec quasiment les mêmes specs, un design un peu différent, un peu plus classique finalement. On se retrouve face à des lunettes de vue et ils font un petit partenariat au passage pour créer le buzz avec Kylie Jenner sur un modèle bien particulier. Voilà, donc trois nouveaux modèles.
Kylie Jenner, d'accord.
Eh oui, mon pote. Eh oui, bien sûr.
Ils
auraient pu passer un accord avec toi.
Je suis pas sûr que ce soit la même. Tu peux me permettre. Mais
une entrepreneuse qui a des réseaux et qui est capable de bien vendre de produits. Donc voilà, je pense qu'ils ont bien ciblé la bonne personne et la bonne ambassadrice.
Voilà. Alors tout ça, on voit que c'est en train... Enfin, tout le monde est en train de fourbir ses armes sur les lunettes connectées, baisser les prix, avoir quelque chose qui fonctionne. Tout ça parce que, évidemment, à la fin de l'année, il y a les Samsung, Google qui sortent, qui peuvent peut-être être de sacrés concurrents aux lunettes Meta. Et puis, bien sûr, on attend qu'Apple sorte du bois, parce qu'on peut pas imaginer une seule seconde qu'Apple n'ait pas dans ses cartons un projet de lunettes connectées. Olivier.
Oui.
On est d'accord.
On est d'accord. C'est les liqueurs Apple, le Clairon. Alors, ils ne sont pas tous d'accord sur la disponibilité de ces lunettes, quelles seraient les fonctionnalités qui seraient mises en avant, mais on sait très bien qu'Apple a ralenti les projets autour du Vision Pro pour déployer l'équipe sur justement ce projet de lunettes connectées. Est-ce qu'on va récupérer des technos du Vision Pro? C'est ça qui est assez intéressant. Il y aurait peut-être surtout une première version qui serait moins ambitieuse, qui serait plus en phase avec ce que fait aujourd'hui
Meta ou Google.
Parce que finalement, Meta, Google, est-ce qu'on peut parler de lunettes connectées ou des concurrents des AirPods? Mmh. C'est ça dont il s'agit aujourd'hui.
Tout à fait.
Donc le risque pour Apple, c'est de se dire, est-ce que demain, on va toujours mettre des oreillettes ou on va mettre simplement ces lunettes qui permettent de téléphoner, faire des photos, etc. ou d'écouter de la musique. Donc ils sont obligés de réagir, c'est clair. Est-ce qu'ils vont aller directement vers une solution vraiment ambitieuse comme l'a présenté nos amis avec les specs récemment, c'est là où il y a une incertitude. Je pense qu'il leur faut du temps quand même pour ils iront.
Mais visiblement, ils prennent ce temps-là. C'est-à-dire qu'on sait que ça ne sera pas cette année, peut-être l'année prochaine. Et est-ce qu'on peut pas se dire que finalement, s'ils prennent du temps, c'est qu'ils vont sortir un truc un petit peu plus évolué que les lunettes qu'on a déjà. C'est-à-dire que je vois mal Apple attendre et sortir l'année prochaine des lunettes avec simplement une caméra et des haut-parleurs.
Pas,
tu vois, je ne peux pas imaginer ça. C'est pas possible. Il y aura forcément quelque chose en plus.
Ils sont plus créatifs et plus. Ils pourraient pas se positionner sur le marché sans avoir une offre différenciante. Et ils ont beau l'appeler les eyeglass et les faire dans un blanc très reconnaissable, ça ne suffira pas. Les gens maintenant, ils sont passés à autre chose. C'est comme pour les écouteurs. Il y a plein de gens qui sont passés. Outre les AirPods et qui ont basculé vers du vrai audio, donc il y a du vrai audio. Ils sont très bien les AirPods, mais voilà, il y a mieux en termes d'audio, je pense. Un avis purement personnel, mais je pense que ce sera la même chose avec les lunettes. Ils vont arriver dans un marché, il sera tellement foisonnant, il y aura même des gens sortis de nulle part, des fabricants chinois qui seront là avec un produit très 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 perfectionné. Donc ils seront obligés de relever le niveau s'ils veulent essayer d'exister.
Vous avez vu que pour les AirPods avec iOS 27, on va avoir l'equalizer qui va arriver.
C'est énorme.
Mais c'est incroyable. On est en 2026, les gars. On va pouvoir rajouter des aiguilles et des graves à son AirPod.
Oui.
Ça, c'est quand même la...
Tu vas pouvoir paramétrer toi-même comme un cran.
Wow. Merci.
Parce que les AirPods vont même fonctionner sous Android à un moment. Ouais. Faites attention.
Ouais.
C'est fou. Non, mais ce qui est intéressant dans le cas pour revenir aux lunettes, c'est que la force d'Apple, c'est avant tout son écosystème. Donc, on sait que la faiblesse de Meta aujourd'hui, c'est ça. L'univers Meta n'est pas forcément très apprécié en termes d'écosystème et de collecte des données, hein, pour ne pas nommer le sujet qui fâche. Donc c'est aussi le point fort qui est mis en avant par Google, parce que derrière il y a Android XR, oui. Donc ça va être plutôt sympa. Et là on va vraiment avoir un écosystème de lunettes connectées à terme, et des applications et des usages qui vont se développer. Pas uniquement prendre des photos, des vidéos et écouter de la musique.
Ça n'aurait pas de sens, mais bon. On n'est pas à l'abri, évidemment, d'un petit rebondissement. On parlait des AirPods. Il y a aussi une autre rumeur Olivier et Damien, qui traînent en ce moment, ce serait la future génération des AirPods qui serait équipée, écoutez bien, de caméras. Mmh. Alors,
c'est une rumeur qui revient depuis
pour voir à l'intérieur
une bonne année,
de,
non, il me semble.
Pour voir à l'intérieur de notre oreille, je vois pas trop à quoi ça peut servir. Est-ce que ce sont des vraies caméras? Est-ce que ce sont plutôt des capteurs infrarouges? On sait pas trop, mais visiblement, il y aura encore plus de technologies qui arriveraient dans les prochains AirPods, Olivier.
Oui, alors c'est intimement lié à une annonce qu'a fait Apple en début d'année, qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est le rachat de QAI, cette boîte israélienne dans l'intelligence artificielle qui a été rachetée plusieurs milliards, je me souviens plus du chiffre exact, mais c'était l'un des plus grosses acquisitions d'Apple, je crois que c'était 10 milliards, des plus grosses acquisitions d'Apple historique avec Beats et Next qui est devenu macOS. Mmh. Non, c'est 1 milliard, j'ai dit une bêtise, c'était déjà pas mal, 1 milliard, croyez-moi. Okay. Beats c'était 3 milliards. On va retrouver le chiffre, mais on se demandait qu'est-ce qu'ils vont faire de cette IA. Et la particularité de QAI, c'est que c'est une IA qui voit. En clair, elle a via des caméras qui sont pas forcément des caméras au sens qu'on entend, ça peut être des caméras infrarouges, des capteurs sur le visage qui perçoit les réactions non seulement de l'utilisateur, ce qui est intéressant, une crispation, un sourire, etc. Ou au contraire prend en compte l'environnement. Aujourd'hui, avec la nouvelle version de Siri qui est enfin, entre guillemets, arrivé, parce que ça ne concerne pas forcément nous en Europe, Apple n'a plus ce boulet qu'il traîne depuis des années et peut enfin proposer des avancées intéressantes en matière de fonctionnalité IA sur ses AirPods ou demain sur ses iPhones ou ses lunettes connectées. Et cette fonctionnalité, ce serait de tenir compte de l'environnement avec des caméras qui seraient capables de dire « il fait chaud, il fait froid, il pleut, tu es en train de cuire quelque chose, je vais te pousser du contenu ». Tu es tendu. Pourquoi tu es tendu? Je vais te voilà.
Tu mets une petite musique.
Tu mets une petite musique douce. On peut tout imaginer. Et ce rachat de QI, il y a une chape de plomb. On ne sait pas ce qu'ils font autour de ça. Du jour au lendemain, la boîte a été intégrée à Apple et l'ensemble des salariés a été intégré. Je ne sais pas si tu as retrouvé le chiffre, mais je crois que c'est
2 milliards. Oui, c'est 2 milliards.
C'est 2 milliards.
Ouais. Alors, même si Apple n'a jamais communiqué, bien évidemment, sur le chiffre officiel, c'est intéressant cette boîte QI parce que. Son intelligence artificielle arrive à détecter des chuchotements et arrive à comprendre vos chuchotements et arrive à même lire sur vos lèvres et c'est ça.
Il faut des calmes.
Voilà, c'est incroyable, étonnant.
On voit Apple, le lien évident. Hein.
Bien sûr.
Mais l'intégration c'est rapide, hein, mais ça date de janvier. Mais après, à mon avis, ils discutent depuis longtemps.
Oui, ils discutent depuis longtemps.
Et puis le fondateur de cette boîte avait une start-up auparavant qui a été rachetée par Apple et c'était eux qui avaient développé, tu sais, la fameuse caméra de la Xbox, je me tourne vers le...
Connect.
Côté obscur de la force, la Connect, qui a été intégrée et qui est devenue Face ID aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, la boucle est bouclée.
Bon,
on comprend pourquoi ils mettent des caméras dans les AirPods.
Ouais, 2027, c'est ce qu'on dit, on verra bien.
Et on sait que Judd Ternus, qui va succéder à la direction d'Apple...
Le nouveau CEO d'Apple qui arrive en septembre.
Et en septembre, a beaucoup d'ambition et veut accélérer le rythme des sorties... Il va aussi accélérer, vous montrer une image un peu plus innovante d'Apple, un peu plus aussi revenir à ses premiers amours, à savoir le design.
Oui, c'est très intéressant tout ça, ça va être voir.
On est vraiment un tournant. On va être.
Mais est-ce que c'est que des mots ou est-ce qu'il y aura, ça sera suivi d'actes? Ça va être très intéressant.
Fixé, dès le mois de septembre.
Oui. Tiens, tu parlais de John Ternus qui va aussi devoir affronter la hausse des prix de tous les produits Apple, là, dans les jours, les semaines, les mois qui viennent.
Oui.
Apple qu'on croyait intouchable de par sa toute puissance par rapport aux fournisseurs de produits électroniques chinois et japonais et coréens, se retrouvent comme les autres au pied du mur. Ils vont être obligés d'augmenter les tarifs de leurs produits parce que les composants et notamment la mémoire vive, son coût explose. Et donc il y aura une répercussion sur les prochains iPhones.
Apple est une boîte cotée en bourse qui aime, comme toutes les boîtes, préserver sa marge.
Oui.
Donc à un moment, les composants et le coût de fabrication
marge généreuse
augmentent, très généreuse. Donc à un moment, voilà, ils sont obligés de l'appliquer. Ils ont quand même fait tampon pendant quelques temps, pour une génération d'iPhone et quelques produits aussi en parallèle. Mais c'est vrai qu'à un moment, la mémoire vive augmente, la mémoire aussi... de stockage augmente, tous les composants augmentent, le coût de fabrication aussi en Chine ou Vietnam ou peu importe où ils le fabriquent En ce moment, ça dépend des produits, et s'ils augmentent, le coût de la main-d'œuvre augmente, donc à un moment, ils doivent le répercuter, quoi. C'était un peu prévisible. Ce qui était un peu moins prévisible, c'était les tarifs qu'ils vont appliquer. Effectivement, là, on est quand même sur un grand bond. Ça va être comment?
Tu as des chiffres?
Non, j'ai pas encore le nouveau catalogue, mais je pense que pour les nouveaux iPhones, on va le sentir passer. Ce sera beaucoup plus que la différence de TVA qu'on pourrait avoir entre les US et l'Europe. Donc, on sera peut-être sur peut-être 200 euros sur un iPhone. Peu importe l'innovation qu'ils mettront dedans, ce sera quand même très difficile à faire passer quand on va se retrouver avec un iPhone qui sera minimum autour de 2000 euros. Enfin, c'est même un iPhone
déjà,
de base.
Ce qui est déjà le cas, non?
Oui, enfin, mais
un iPhone d'entrée de gamme.
Sur les versions pro, mais sur l'iPhone de base, on n'est pas encore à 2000 euros.
On n'est pas loin.
Hein. Ouais. Là, on va passer le.
On n'est pas loin. Moi, ce qui me fait peur, c'est l'iPhone pliable qui va lui tutoyer les étoiles des augmentations.
Euros, ouais. Je pense. Il faudra casser le PEL, oui, effectivement.
Parce qu'en plus, Apple a toute la légitimité à le vendre à un prix stratosphérique, ce téléphone. Parce qu'il est nouveau.
Il va être exceptionnel.
Il va être nouveau. Innovant de par ce que fait Apple,
ouais.
Voilà.
Alors on espère.
Sauf s'ils veulent véritablement que ce type de produit se démocratise. Oui. Mais j'ose même pas imaginer le prix que pourra coûter ce produit, quoi.
Apple anticipe rarement et communique rarement sur des faits à venir. Là, Tim Cook a déclaré la semaine dernière qu'ils allaient être obligés de répercuter la hausse des composants, que c'était inévitable. Il n'a pas donné de calendrier, certainement pour préparer les esprits. Alors les différents liqueurs, les Marc Gurman et les Michiko se tirent la bourre à savoir qui va avoir raison. Les uns pensent que c'est tout de suite, les autres pensent que c'est plutôt à la sortie des nouveaux produits, c'est-à-dire à la rentrée. Je pense qu'aussi qu'Apple a sécurisé ses fournisseurs jusqu'à la prochaine génération d'iPhone notamment.
Comment ça se passe là? On sait comment ça se passe là, les négociations secrètes que qu'Apple a avec ses fournisseurs de composants électroniques.
Ça dépend le point.
C'est au mois par mois, c'est d'année en année.
Alors, il y a plusieurs systèmes en parallèle. Ça dépend ce qu'on fabrique concrètement. Il y a parfois on négocie un prix et il y a après le prix à la livraison. Ça se fait beaucoup chez les PC notamment où on a un prix en fonction de l'évolution du prix des composants et on a un autre prix qui arrive, une nouvelle facture qui arrive. Être parfois. Okay. Différentes. Apple,
et le constructeur n'a rien à dire en fait.
Non, parce que c'est dans la petite ligne du contrat, mais à un moment, il négocie aussi avec Foxconn un prix, et à la fin, il y a peut-être un prix qui est différent et qui va être impacté ensuite sur le prix de vente final.
Je discutais il n'y a pas longtemps avec un patron d'une compagnie aérienne qui me disait que, par exemple, pour le pétrole, enfin en tout cas pour le fuel qui va dans les avions, certaines compagnies bloquaient en fait les tarifs sur plusieurs années. Et en fait, ils payaient un petit peu plus cher. Quand c'était pas cher,
ça permet de lisser.
Mais ça permet de lisser. Vous savez, c'est un peu comme les taux d'intérêt de certains crédits, en fait. Et je me demandais si c'était pareil aussi dans les composants électroniques. Est-ce que Apple, avec sa toute puissance, peut pas dire, écoutez, vous savez quoi, sur les trois prochaines années, moi, toutes vos mémoires, je vais les acheter à tel
si
prix.
Que ça, parce que, par exemple, dans l'ordre de priorité, apparemment, ils ont été rétrogradés. Maintenant, les fabricants préfèrent prioriser des data centers qui ont de la masse, du budget, une vision sur 2-3 ans, plutôt qu'Apple. Apparemment, c'est ce qui se passe concrètement, c'est qu'Apple n'est plus forcément top prioritaire comme il a pu l'être dans les usines de Taïwan ou d'ailleurs.
Enfin, Apple était top prioritaire parce que Apple achetait quasiment toute la prod. Donc,
c'est réservé, oui.
Ouais. Donc, ils arrivaient à tordre le bras.
Et tu veux dire que ça, ils n'ont plus cette position de force?
C'est différent, mais ils étaient aussi prioritaires, comme c'était le cas notamment chez
TSMC.
Je n'arriverai jamais à le dire.
Non, mais c'est
le fournisseur de puces taïwanais. C'est eux qui ont permis à TSMC d'être au niveau. Enfin, c'est Apple qui a permis à TSMC d'être au niveau de finesse de gravure d'être aujourd'hui, parce qu'ils ont carrément acheté la ligne de production. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place, ils ont financé. Et à partir de là, quand tu finances une partie de ton usine, tu peux pas dire non à ton fournisseur. Sauf qu'on arrive à un fin de contrat et que ça fait 4-5 ans qu'ils travaillent ensemble, même plus aujourd'hui, et que derrière Nvidia pousse pour les solutions de GPU qui vont alimenter demain les grands data centers dont on a besoin pour l'IA. Mais ils ont encore cette puissance-là, c'est-à-dire de dire, nous on vous a payé l'usine, on réserve des lignes de production, ils le font avec des écrans, ils le font avec la mémoire, mais ils ont moins de poids qu'auparavant parce que derrière il y a beaucoup d'argent qui sont en jeu. En revanche, ce qu'ils essayent de faire aujourd'hui, c'est qu'ils essayent de s'ouvrir à d'autres fournisseurs en disant on n'a plus de fournisseurs exclusifs comme auparavant, et on essaie de s'ouvrir à un éventail plus large. La difficulté, c'est que c'est une entreprise américaine. La difficulté, c'est qu'on a une Maison Blanche dirigée par Donald Trump aujourd'hui qui ne souhaite pas que Apple s'ouvre à d'autres fournisseurs,
et notamment chinois.
Donc, Tim Cook, qui reste et qui restera le président du conseil d'administration, et c'est dans sa
roadmap,
c'est de négocier avec l'administration américaine la possibilité de continuer de travailler avec des fournisseurs chinois pour les mettre en concurrence. Et mettre en concurrence, c'est, voilà. Et puis on entend même aujourd'hui, puisque c'est Donald Trump lui-même qui l'a annoncé, que Apple aurait signé un contrat avec IBM, avec Intel, pour produire des puces. Alors évidemment, ils n'ont pas la techno de TSMC aujourd'hui en termes de finesse de gravure, mais ça permettrait au moins d'alimenter une partie du...
Ils se sont bien gardés de dire de quel type de puce c'était, franchement, parce que là...
Ils sont loin d'être à 2 nanomètres, comme l'annonce aujourd'hui de TSMC.
Intel n'a pas le savoir-faire et la capacité aujourd'hui de graver aussi petit, et que ce soit les iPads, les iPhones ou même les Mac aujourd'hui...
Non, ce sera des produits d'entrée de gamme, c'est clair.
Ou alors des gros serveurs qui nécessitent, si tu veux, des gravures moins fines, mais des machines qui seront à la marge, quoi.
Et encore là, quand tu vois les grosses puces d'Apple, ils visent plutôt encore à descendre en finesse de gravure.
Ils visent
2 nanomètres et pour leur...
Je me demande s'il n'y a pas encore, évidemment, beaucoup de politique derrière cette annonce entre Intel et Apple.
Mais en tout cas, ce qu'on peut dire sur les composants, c'est qu'Apple, effectivement, va être obligé d'augmenter les prix, ça c'est quasiment sûr. En revanche, c'est aussi un des acteurs du marché qui a la plus forte marge brute, puisqu'il a une marge brute entre 40 et 50% pour... La marge brute, c'est quoi? C'est les bénéfices qu'on tire de la vente d'un produit.
Qui après se réduit, bien évidemment, quand tu intègres le marketing, la publicité, la R&D aussi, qui n'est pas comprise, là-dedans.
Exactement. Mais si on regarde aujourd'hui le niveau de marge brute d'un Apple, c'est supérieur à un géant du luxe comme LVMH ou Hermès. C'est là où c'est fou. On peut penser qu'ils ont aussi la capacité de rogner, même si c'est pour l'instant dans l'ère Tim Cook c'était inimaginable, maintenant on change d'ère avec John Ternus, de renier un petit peu sur leur marge. Ils n'auront pas de choix.
Ouais, c'est clair. Bon, voilà pour le chapitre Apple. Il y avait pas mal de choses à dire, finalement, et on attend bien sûr avec beaucoup d'impatience les premières semaines de septembre où Apple annoncera évidemment toute la cohorte de nouveaux iPhones.
On veut du pliant cette année.
On veut du pliant.
Oui, a priori, parce qu'il y avait une incertitude.
On veut du pliant.
Oui.
Incertitude.
On exige.
Voilà.
Il y avait une incertitude sur la dispo du pliant en septembre. Et a priori, il serait là en septembre.
Ouais. On verra bien. J'aimerais qu'on évoque maintenant Waymo. Ces robots taxis qui bluffent tout le monde, aux États-Unis notamment. Je pense que tu l'as pris, Damien, lors de tes différents déplacements aux États-Unis. Je ne sais pas si tu es déjà monté dans un Waymo.
Non,
Olivier, c'est vraiment impressionnant.
Dans une Jaguar, mais pas dans une Waymo.
Ah, ben voilà. Donc, c'est cette Waymo, qui est donc le robot taxi de Google, est quand même assez impressionnant, pour vous dire. La première minute, on se dit « Waouh, il n'y a personne, on a un peu peur ». Et puis après, on oublie totalement qu'il n'y a personne qui est au volant.
On prend son téléphone et on fait sa vie.
On gagne confiance très très vite et il faut dire que c'est quand même assez bluffant. Ça marche bien, mais malgré tout, il y a de temps en temps des bugs, je crois, Damien.
Ça peut arriver, effectivement. On se rappelle l'histoire qu'il y avait eu on pouvait bloquer les voitures en mettant un plot de construction à San Francisco parce que forcément les capteurs identifiaient ça comme un danger. Et là, effectivement, il y a un rappel de voitures pour corriger quelques bugs avant des déploiements. Pour l'instant, il y a des déploiements dans quelques villes américaines et dans d'autres villes dans le monde. Et Waymo devait arriver en Europe, techniquement en Europe, parce qu'il devait arriver à Londres à la rentrée. Et peut-être que ça va être un petit peu retardé et qu'on va essayer de peaufiner la technologie avant de la déployer massivement. Parce que ces bugs-là de sécurité, le problème, c'est que quand on est sur un secteur aussi critique de celui-là, n'importe quel bug de sécurité, ça peut mettre en péril en fait toute l'industrie. Donc Waymo, s'il se loupe, ça peut mettre en péril le déploiement d'autres marques, comme ça peut être le cas.
Et l'actu de la semaine dernière, c'était que Waymo avait rappelé en fait 3900 taxis confondaient les routes et les chantiers, ce qui était quand même petit problème.
Un petit bug.
Et d'ailleurs, ça rigole pas, parce que là, évidemment, il y a la réglementation qui jette son œil là-dessus, parce que le pire qui pourrait arriver, c'est qu'il y a des accidents mortels à bord d'une Waymo. Et là, ça casserait véritablement toute la confiance qu'on a aujourd'hui avec ce type de voiture, Olivier.
Les véhicules n'ont pas tenu compte des fermetures de bretelles sur les autoroutes autour de San Francisco, notamment. Donc c'est quand même assez touchy. Bon, c'est quelques, il y a une dizaine de cas, hein, c'est pas non plus. Mais après,
il y a. Ouais, mais il y a un problème, il y a un bug dans le dans le soft, voilà. Quoi, en tout cas.
Donc on dit rappel, c'est un rappel essentiellement logiciel. Hein. Ils vont pas démonter la voiture, comme on fait le cas aujourd'hui.
Ça peut se faire à distance d'ailleurs.
Ouais. Oui. Sans doute fait
par la plupart des constructeurs automobiles, mais c'est vrai que ça pose un problème. Et c'est vrai que on pardonnerait pas à une entreprise qui est cotée ou qui va l'être cotée en bourse de provoquer des accidents. Mais c'est l'enjeu. On voit que en Europe, on est beaucoup plus prudent et beaucoup plus sur la défensive autour de ça. Même si dans les pays nordiques, on voit arriver maintenant des solutions.
Et en Croatie, ils ont commencé à utiliser les voitures autonomes en Croatie, un partenariat entre un constructeur chinois et Uber qui commence à se déployer. Donc ça va arriver en Europe. Effectivement, tout ce qu'on reprochait à Tesla il y a quelques années, de problèmes de détection de piétons, de problèmes de détection de travaux, on les retrouve maintenant à Waymo. À Waymo, on pensait que c'était le miracle qu'on attendait tous. Et finalement, ils se retrouvent avec les mêmes difficultés et obstacles.
Et Tesla qui semble vraiment miser à fond sur l'évolution de la voiture autonome avec les robotaxis. Hein. On va plus forcément arriver de nouveaux modèles de véhicules chez Tesla. Et Elon Musk, en tout cas, c'est son discours. Est-ce que c'est du storytelling, sans privilégier l'émergence du robot taxi et la voiture autonome et du robot tout court en utilisant les chaînes d'approvisionnement et de montage de Tesla pour cela.
Ouais. Alors il arrive normalement, Waymo arrive à Londres, mais le seul problème, c'est que évidemment les rues, les routes à Londres ne sont pas les mêmes qu'aux États-Unis. Bon, alors au-delà du fait qu'on roule,
c'est pas tout, on roule pas du même côté. Voilà.
Bah, déjà, on roule pas du même côté. Déjà, bon, ça, ouais. J'imagine que c'est pas le plus compliqué à mettre à jour dans le logiciel. Mais c'est vrai que les routes sont étroites. Il y a énormément de travaux partout. Donc
la densité de population sur une petite zone.
Bien sûr, il y a beaucoup plus de personnes qui roulent à vélo aux États-Unis. Je suis désolé, mais sur les grands axes, on le voit vous avez pas de vélo, quoi.
Mais il n'y a pas de trottoir déjà, donc.
Il n'y a pas de trottoir,
pas de problème.
Donc, ça change en fait la physionomie des routes n'est pas la même et donc c'est le défi de Waymo, c'est d'arriver à Londres où la réglementation est beaucoup plus, on va dire, coulante que en Europe et après essayer de venir pourquoi pas à Paris, mais bon.
Oui, on sait qu'ils sont pas très chauds à Paris en tout cas, mais après on peut imaginer le déploiement sur certains itinéraires. Tu peux imaginer le déploiement entre des gares ou entre des aéroports parisiens où on peut parce qu'il y a l'autoroute qu'on sort de Paris, etc. Mmh. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué que les infrastructures européennes sont plus anciennes puisque les villes sont simplement plus anciennes, qu'on n'a pas comme à New York des blocs où tout est autocarré et c'est assez simple de se repérer, où les voies sont larges, etc. Mais et puis aussi il y a une volonté européenne de y aller progressivement parce qu'on n'a pas confiance aussi dans l'aspect collecte des données. Ouais. Qu'est-ce que font ces constructeurs de ces informations vitales? Il y a aussi cet aspect là et donc l'Europe a aussi freine son jeu de mots aussi pour cette raison.
Après il y a aussi une part de lobbying des constructeurs automobiles européens qui sont un peu à la ramasse et du coup qui pensent pouvoir combler leur retard en retardant l'échéance d'arrivée soit d'opérateurs américains, soit d'opérateurs chinois, mais malheureusement, ils vont pouvoir retarder l'échéance.
Alors qu'en Chine, c'est open bar.
Hein. Eh oui. Ouais. On parlait avec le PDG de Pony AI qui travaille avec des équipementiers français et européens pour installer leur logiciel dans des voitures autonomes qui vont pouvoir standardiser. Et c'est finalement pas tant un problème d'infrastructure autoroutière ou même de construction des rues, c'est juste en fait d'adapter la législation et de faire sauter des verrous qui sont essentiellement mentaux pour lancer des voitures. Et pareil, on va se poser la question de savoir, j'ai les caméras dans une voiture embarquée, où vont ces données-là, qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Parce qu'on peut les compiler pendant des années et les réutiliser pour peut-être déstabiliser un pays dans quelques temps.
Bien sûr, bien sûr. Et puis il faut pas oublier que, par exemple, dans les Waymo, vous avez même des caméras intérieures.
Oui.
Parce que il faut surveiller ce qui se passe dans la voiture pour pas que les gens je sais
le
pas
volant, moi, déjà
détruisent la voiture ou oublient
non détruisent la voiture la salisse enfin voilà etc. mais je suis pas persuadé que chez nous par exemple ça passe, je suis pas sûr.
RGPD, je suis pas sûr
qu'on ait le droit, donc ça il y a plein d'obstacles en fait à tout ça.
Mais il faut demander en tout cas l'autorisation de l'utilisateur.
C'est clair.
J'ai rencontré un fabricant de voitures en autopartage comme feu l'Autolib qu'on avait à Paris, petite voiture électrique, et effectivement une caméra intérieure, puisque comme elle est en autopartage, on sait que c'était un problème, hein, en matière
Oui, le vandalisme sur les autolibes, c'était...
Et aussi, bon, l'argument, c'est de dire, si vous oubliez quelque chose, on va le détecter, oui. On vous prévient, et de l'application, en fait, tu vois, il t'explique, tu dois signer le contrat. Si okay. Pas le contrat, ils n'activent pas
donc,
la
caméra. Donc voilà, oui, après, bon, c'est un moindre mal, si tu donnes l'autorisation...
Par contre, tu ne peux pas avoir le service si tu ne signes pas.
Voilà, est-ce que ces Waymo vont arriver à Paris? Bah écoutez, on va surveiller ça de près, et bientôt à Londres en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux, merci Olivier Frigara, merci Damien Licata, qu'on peut lire au Parisien, on refait le Mac, on refait la F1 avec Olivier.